E-Radio, l'invité de la rédaction. Lutzi Funke.
C'est la semaine des radios associatives en Pays de la Loire et pour cela nous allons retracer l'histoire et l'évolution des radios associatives en France avec l'aide de Sébastien Poulain, docteur en sciences de l'information et de la communication spécialisé dans l'histoire de la radio en France. Bonjour Monsieur Poulain.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on entend par radio associative ?
Bon, alors radio associative, tout simplement, ça a été défini par la loi. Dès 82, on oblige toutes les radios à prendre le statut administratif d'association. Donc, après la libéralisation des ondes, on peut parler de libération des ondes, bref, avec ce qu'on appelle la fin du monopole des ondes, qui n'est pas totalement fini. Il y a quelques petites exceptions. Il y a un régulateur qui garde le monopole de la régulation des ondes. Hein. C'est toujours un domaine public hertzien, donc régulé, etc. Les lois s'appliquent, évidemment. On n'est pas dans les terres, on n'est pas dans l'espace. Même l'espace aujourd'hui, il y a de la réglementation, mais l'espace radiophonique et évidemment géré par des lois, par des personnes, par le gouvernement, etc. Et donc voilà, toutes les radios qui espéraient avoir une autorisation d'émettre sur la bande FM, en FM, par la voie hertzienne, devaient se constituer en association, y compris des projets qui dès le départ étaient des projets industriels et commerciaux. Hein. Donc aujourd'hui, évidemment, les radios, il y a certaines donc qui sont restées purement associatives, qui sont aujourd'hui des associations. Il y en a plusieurs centaines, hein, 700 en France. Hein, donc c'est vraiment un gros secteur.
Et avant 1982, à quoi ressemblait le paysage radiophonique ?
Alors juste avant la libéralisation des ondes, juste avant la fin du monopole, eh ben, le paysage était très petit. le paysage sonore radiophonique était microscopique, puisque voilà, il y avait trois, quatre radios publiques et voilà, France Culture, France Inter, France Musique. Il y avait aussi FIP qui naissait. Et puis le début des France Bleu qui sont apparues. France Bleu, donc des radios locales, des radios publiques locales. Qui commençait à apparaître justement sur cette période, vraiment juste avant la libéralisation des ondes. Hein, donc parce que tout simplement l'État a compris, le gouvernement a compris que il y avait une volonté locale d'utiliser la FM, que tous les territoires soient représentés, que les territoires aient leurs médias audiovisuels, parce qu'évidemment il y avait une presse papier, ce qu'on appelle la PQR, presse quotidienne régionale, était très développé, même plus qu'aujourd'hui. Hein, il y avait beaucoup de presse papier, mais par contre, c'est vrai qu'il y avait très peu de radio régionale, radio locale, tout simplement, et aussi parce qu'on n'utilisait pas l'AFM, on utilisait très peu l'AFM. À l'époque, seulement la radio publique utilisait l'AFM. Or, vous savez, les ondes FM, elles sont diffusées sur une petite distance. L'AFM, c'est de la bonne qualité de son, mais sur une petite distance par rapport aux autres ondes qui étaient utilisées par d'autres radios qu'on appelait les radios périphériques. Radios périphériques, donc, qui étaient des radios commerciales qui émettaient depuis la périphérie de la France, hein, donc depuis Monaco pour RMC, depuis le Luxembourg pour RTL, et puis depuis l'Allemagne pour le radio Europe 1, Europe numéro 1, elle a changé de nom d'ailleurs, et qui existe toujours. Hein. Tout ça, c'est toujours ces trois grandes radios importantes. Il y avait aussi Sud Radio, hein, donc Sud Radio, le Sud, évidemment, Monaco, le Sud aussi, le Sud-Est, et puis voilà, au Nord-Est, on avait les deux grandes radios, donc elles divisaient un peu le territoire. Et elles émettaient depuis en dehors de la France, même si les studios étaient en France, les studios étaient à Paris, au vers les Champs-Élysées, hein, ça n'a pas changé, vers le 16e, etc. Vous voyez une sorte de carrefour comme ça, proche des ministères, Évidemment, c'est pratique pour les élections, pour faire venir le président, les ministres, les députés. Il faut être proche du pouvoir, il faut être proche des entreprises, parce que tout simplement, il faut qu'ils viennent dans les émissions et ils vont pas aller au Luxembourg ou en Allemagne pour faire leur interview. Bon, évidemment, on aurait pu utiliser le téléphone, mais bon, le téléphone, c'est quand même pas un très bon son. Et donc, voilà, c'est mieux quand même s'ils viennent dans les studios. Et donc voilà, donc le territoire était était comme ça divisé avec ces radios privées commerciales qui existaient depuis longtemps. Mais c'est vrai que quand on comptabilise, ça faisait très peu de radios et donc très peu de radios privées. Et donc voilà, c'était interdit d'émettre depuis la France.
Mais il y avait également des radios pirates.
Donc il y a des radios pirates anglaises déjà qui ont émis vers la France. Donc il y a des auditeurs français qui ont écouté les radios pirates offshore, les radios dans la mer, qui émettaient plutôt à destination de l'Angleterre, mais pas seulement, c'était la Belgique, c'était la Hollande, c'était voilà des radios qui émettaient des radios musicales commerciales, voilà qui passaient de la publicité. Hein, le but c'était industriel. Hein, d'ailleurs, pour louer un bateau, ça coûte de l'argent, on peut pas. Voilà, il y avait des DJ, des salariés. Il y a eu d'ailleurs un film assez connu sur ce sujet, voilà, donc des radios pirates avec des gens qui étaient salariés et qui passaient de la musique depuis la mer sur leur bateau, donc des radios offshore, radios pirates. Elles étaient interdites, elles ont été d'ailleurs sanctionnées, ou du moins voilà, les personnes qui finançaient ça, la publicité a été sanctionnée par le gouvernement anglais, donc ça n'a pas duré extrêmement longtemps. Et donc en France aussi, dès 69, on a une radio pirate en quelque sorte, voilà, une radio étudiante de Radio Campus Lille, donc voilà, dès 69, donc un an après mai 68, hein, sur un campus, il y a une création d'une radio. Mais bon, voilà, c'est assez exceptionnel, même si elle existe toujours aujourd'hui, hein, quand même, c'est une radio, voilà, radio universitaire. Souvent, ils ont un peu plus de liberté sur un campus que dans le reste du territoire, la liberté universitaire qui existe. Bon, mais voilà, ça c'est exceptionnel. Mais après, effectivement, il y a un combat qui se fait à partir de, déjà à partir de 75, il y a des radios vertes qui veulent combattre, vous savez, les centrales nucléaires en France. Hein, on a mis plein de centrales nucléaires partout pour au niveau de l'énergie, c'était intéressant. Mais bon, évidemment, il y a eu plein de militantisme anti-centrale nucléaire, anti-superphénix, voilà, contre, et donc des radios qui ont été créées, voilà, pour ce type de combat, ou pour les élections municipales, le parti vert, notamment, le parti des écologistes, qui est un nouveau parti qui doit se faire connaître. Et donc, le média radio, c'est pratique pour se faire connaître.
Et pourquoi est-ce qu'il y avait ce monopole étatique? Par crainte de soulèvement?
Par exemple, alors ça, c'était surtout les soulèvements, bon, c'était quand même plutôt dans les années 20, les années 30, où il y avait vraiment des combats extrêmement forts, des gens qui n'étaient pas républicains, des gens qui étaient anarchistes, des gens qui étaient royalistes. Donc là, vraiment, il y avait un risque, il y avait aussi voilà, les communistes, donc des gens qui pouvaient remettre en cause le régime républicain. Évidemment, le nazisme aussi qui apparaît et qui a fait tomber Weimar, qui a fait tomber la République en Allemagne. Et en France, c'est pareil. Il y avait aussi des risques, de l'antisémitisme aussi, etc. Enfin, donc, il y avait plein de combats. Donc, la radio, si elle avait appartenu à des partis politiques, elle aurait pu servir pour faire des soulèvements, exactement, des révoltes, des révolutions, tout simplement, dans des objectifs pour les élections. Sans vouloir faire tomber la Troisième République. À l'époque, c'était la Troisième République. Donc, avant la Seconde Guerre mondiale, c'était la Troisième République. Après, il y a eu la Quatrième République juste après la Seconde Guerre mondiale. Mais évidemment, la Seconde Guerre mondiale joue un rôle important. Mais en fait, dès l'origine, il y avait un monopole. Hein, l'État, depuis déjà la télégraphie, il y avait un monopole sur la télégraphie. Il y avait un monopole des postes, donc c'est une continuité. Hein. L'État est plutôt prudent quand il s'agit de donner la parole aux citoyens, de donner la parole aux partis politiques, de donner la parole aux gens. L'État tente de sécuriser la communication politique.
Monsieur Poulain, vous avez déjà évoqué la libéralisation des ondes au début des années 80 sous Mitterrand. D'où venait cette libéralisation? Est-ce qu'il y avait des revendications?
Eh bien, il y avait certaines radios qui voulaient, qui se battaient pour la libéralisation dans des objectifs vraiment professionnels, d'autres qui voulaient des radios amateurs, des radios associatives, locales, où les bénévoles peuvent intervenir ou pas, pas forcément de salariés.
Mais pourquoi l'État, tout d'un coup, a décidé de...
C'est pas tout d'un coup, justement, il y a eu une bataille. Il y a eu une bataille qui a duré, voilà, surtout de 77 à 81, où, en permanence, il y avait des pirates qui créaient des radios. Alors, c'était pas des radios en permanence, c'était des radios qui émettaient la nuit, qui émettaient juste pendant une heure, parce qu'après, l'État se battait contre ces radios, c'est-à-dire que l'État allait brouiller les ondes, l'État allait prendre tout le matériel. Il y a une loi qui passe en 78, parce qu'avant, il n'y avait pas de sanctions, en fait. Avant 78, il n'y avait pas de sanctions. Donc, c'était interdit de faire de la radio, mais ce n'était pas sanctionné. Donc, en 78, voilà, maintenant, il y a une sanction. Voilà, ça peut être 10 000 francs à l'époque, donc c'est 1 500 euros, par exemple, ou ça pouvait monter jusqu'à 100 000 francs, mais c'est jamais allé jusque-là, hein, parce que globalement, les gens étaient plutôt, que ce soit les juges ou que ce soit la population française, elle était plutôt pour les radios libres, hein, globalement. Il faudrait voir les sondages, je ne peux pas vous donner un sondage, mais voilà, les gens étaient pour avoir plus de radios, je pense, hein, globalement, mais au niveau politique, ça ne passait pas. Donc Mitterrand, lui, décide ce changement, mais c'était très compliqué, puisque au sein de chaque parti politique, tout le monde n'était pas d'accord. Il y avait des conflits, y compris dans le parti au pouvoir avant Mitterrand, hein, dans la droite, Valéry Giscard d'Estaing, qui était au pouvoir, qui lui était totalement opposé, parce qu'il avait peur notamment de Mitterrand. Il voulait pas que Mitterrand ait le pouvoir, évidemment. Il voulait pas que Mitterrand crée sa radio, la radio du Parti Socialiste, pour critiquer Valéry Giscard d'Estaing, dénoncer Valéry Giscard d'Estaing, etc. Donc, ça peut être en partie pour ça. Après, il a jamais voulu donner ses raisons, il a jamais voulu expliquer pourquoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein du Parti Socialiste lui-même, et peut-être même Mitterrand lui-même, n'était pas forcément pour la libéralisation, n'était pas forcément pour la fin du monopole totalement, hein, et de créer des, il n'était pas totalement pour la création de radios commerciales ou même de radios locales associatives libres. Lui, beaucoup de socialistes étaient plutôt pour la création de radios locales, municipales, voilà, qui seraient gérées par les villes, qui seraient ouvertes aux citoyens sans doute, mais quand même un petit peu contrôlées. Hein. Donc il y avait des tensions dans tous les partis. Le Parti communiste, c'est pareil. Mais même au sein du parti au pouvoir, le Parti républicain, le parti de Valéry Giscard d'Estaing, il y avait des personnes qui étaient pour la libéralisation, pour le coup, qui voulaient créer des radios professionnelles, des radios commerciales, parce qu'ils voyaient qu'il y avait un business. Et effectivement, c'est Valéry Giscard d'Estaing, c'était quand même le parti libéral. Donc, parti libéral, normalement, c'est la liberté. Et surtout, la liberté économique. Parce qu'à l'époque, il y a le libéralisme qui arrive. On se souvient de tout ce qui va se passer, évidemment, 83, Reagan, etc. Il y a une forme de libéralisation, surtout économique, qui apparaît. Mais malgré tout, voilà, quand on se présente comme parti libéral, mais qu'on est contre la libéralisation des ondes, voilà, c'est un peu une contradiction, et justement, il l'avait jamais voulu expliquer. Bref, en fait, ce qui se passe, c'est quand Mitterrand est élu, tout le monde pense qu'il va autoriser les radios. Parce que, déjà, lui a fait un peu de radio, il a fait Radio Riposte, donc on se dit, si lui-même a été pirate, franchement, forcément, il va autoriser les radios. Et puis, il y avait une ambiance comme ça de liberté, une ambiance, les jeunes, voilà, on valorisait les jeunes. Et donc, de fait, en fait, dès son arrivée au pouvoir, en mai 81, les radios des centaines de radios apparaissent sur les ondes, et des futures radios commerciales, d'ailleurs. Il y a des radios qui se souhaitaient commerciales dès l'origine et qui apparaissent dès 81. Et donc, là, il y a un rapport de force qui se met en place et il n'y a plus de retour en arrière possible parce que c'est toute la jeunesse qui veut se lancer sur les ondes. Et donc, voilà, donc tout se passe à ce moment-là.
Est-ce que cette ouverture a eu un impact sur d'autres pays en Europe?
Les pays sont quand même connectés. On voit ce qui se passe à l'étranger. Donc, l'Italie a eu de l'influence sur la France dans la mesure où la Cour constitutionnelle italienne a eu de l'influence sur un peu sur nous, parce que forcément on se dit mais voilà, en Italie ils libéralisent, donc pourquoi pas nous. Bon, mais finalement ça a pas eu d'effet parce que tout simplement le pouvoir était contre. Et puis surtout, ça n'a pas plu ce qui se passait en Italie, parce que évidemment, c'était des centaines et des centaines de radios, des radios parfois extrêmement politisées, comme Radio Alice, etc., des radios assez très militantes, et donc ça a plutôt fait peur. Il y avait la peur de l'anarchie. On parlait, voilà, donc les radios libres, les radios pirates ont été très diabolisées par le pouvoir. Mais la France a eu une influence, forcément, dès qu'un pays démocratique libéralise ses ondes, libéralise la radio, ça fait bouger les lignes, ça fait bouger les lignes en Belgique, ça fait bouger les lignes. Bon, voilà, après c'est pas possible partout. Quand on a des pays qui sont encore assez autoritaires, comme en Espagne, etc. C'est pas magique comme ça. Tout d'un coup, hop, il y a un pays qui s'y met. Les choses vont petit à petit, mais forcément, quand il y a un pays démocratique qui s'y met, c'est difficile après de continuer le processus qui va arriver partout, qui va arriver en Allemagne aussi. Et donc, l'Allemagne c'est différent. L'autre chercheur va vous en parler mieux que moi, donc je préfère pas en parler. Mm. Et oui, forcément, ça a des influences, y compris en Afrique après, mais 10 ans plus tard, dans les années 90, on va commencer à avoir un début de libéralisation dans les années 90, dans les pays qui est les anciennes colonies françaises aussi vont se libéraliser un petit peu, mais vraiment sur un temps long quand même.
Lors de l'ouverture, beaucoup de radios associatives se sont formées, qui ont depuis disparu. Combien de radios associatives est-ce qu'il y a aujourd'hui et quelle place occupent-elles dans le paysage radiophonique ?
Oui, la plupart en fait des radios associatives qui sont créées en 81 ont disparu. Moi, j'ai fait ma thèse sur une radio qui existe encore et qui a été créée en 1980. Donc, qui a été une radio libre un an avant la libéralisation, elle a réussi à tenir depuis 1980. Mais sinon, c'est vraiment une exception. Toutes les autres radios ont été créées après, et celles qui ont été créées et autorisées, parce qu'il ne suffisait pas d'être créées, c'est qu'après, il y a eu tout un organisme d'autorisation, de régulation, qui s'appelle aujourd'hui l'ARCOM, qui a pris plusieurs noms dans l'histoire. Et donc aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, et c'est vrai qu'il y a 700 radios associatives, donc elles sont partout, sur tous les territoires, dans des petites zones. Et donc il y a une grande diversité de radios, et elles sont ça n'existe pas à la télé. La télé, il n'y a pas des télés locales partout en France. Des radios, c'est partout. Donc c'est vraiment une spécificité très importante. La radio, c'est un média très léger, donc c'est facile, mais c'est ça l'intérêt, c'est qu'elles sont surtout, sont partout. On peut rentrer dedans facilement, on peut y faire des stages, on peut y travailler éventuellement, être salarié, être bénévole, faire des émissions sur tous les sujets qu'on veut. Aujourd'hui, en plus, ces radios, elles font des podcasts, elles ont des sites internet, elles sont sur les réseaux sociaux, selon les moyens, évidemment. Mais il se trouve qu'en France, elles ont un financement national, grâce au ministère de la Culture, qui est le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Et donc là, c'est quand même un budget de 30 millions qui est divisé pour ces 700 radios. Alors, ça fait pas beaucoup si on divise par toutes ces radios, mais malgré tout, ça permet d'avoir 1, 2, 3 salariés. Et ça permet de faire vivre une radio grâce aux bénévoles, grâce à la musique. Et donc ça, c'est très important. Donc les radios, hier j'étais au salon de la radio, le salon de la radio en France, qui a lieu à Paris, tous les ans. Et il y avait la représentante de l'ARCOM, donc le régulateur de l'information, de la communication, de l'audiovisuel, des technologies, d'internet, etc. Donc le régulateur de tout ça, qui a intervenu et qui a dit que les radios locales avaient un rôle très important en France, notamment pour l'éducation aux médias et à l'information.
Merci beaucoup, Monsieur Poulain.
Merci à vous.
Je rappelle, Monsieur Poulain est docteur en sciences de l'information et de la communication, spécialisé dans l'histoire de la radio en France.
Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.